Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour. Qu'est-ce qui compte vraiment dans nos vies pour être heureux? C'est la question centrale pour déterminer nos besoins. Boire, manger, avoir un toit, se reproduire, le reste, théoriquement, est superflu. Bon, d'accord, il faut s'habiller, se déplacer, mais c'est à peu près tout. Regardez la crise écologique en face, c'est-à-dire prendre conscience réellement de l'impact du dérèglement climatique et de la disparition de la biodiversité, nous oblige à réexaminer la manière dont nous satisfaisons nos besoins primaires. Ce n'est pas très enthousiasmant, me direz-vous, et puis il y a ce nouveau téléphone qui vient de sortir ou la robe de ma cousine qui me fait tellement envie. Je vous l'avoue, résister, c'est compliqué. Mais si vous êtes convaincu que ce n'est plus possible d'avoir la consommation comme seul horizon, alors ces renoncements vous rendront heureux. Et cela va beaucoup plus loin que nos choix individuels. C'est un véritable projet de société qu'il faut désormais porter. Et il s'appelle la décroissance. C'est un discours de riche, pensez-vous? Eh bien, pas du tout, et nous allons vous le prouver avec notre invité.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Vincent Liéger.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur, chercheur interdisciplinaire. Vous vivez à Budapest, en Hongrie, où vous coordonnez Cargonomia, qui est un centre de recherche et d'expérimentation sur la décroissance. Vous venez de publier Décroissance dans la collection Fake or Not chez Tana Édition. Alors, c'est un livre très pédagogique, plein d'infographies. Hein. Vraiment, c'est extrêmement clair. Et ce livre décortique justement ce qu'est la croissance, ses coulisses et pourquoi et comment nous pouvons en sortir. C'est du coup ce qu'on nous allons essayer de faire aussi dans cette émission. Alors commençons tout d'abord par un état des lieux, comme vous le faites dans votre livre. Extraction des matières premières, énergie consommée, transport maritime, circulation numérique, gaz à effet de serre, production de déchets. Nous vivons clairement au-dessus de nos moyens.
Exactement. On pourrait rajouter encore beaucoup d'autres choses qui nous inquiètent, qui nous alertent. Je crois que nous venons toutes et tous de vivre un été qui nous a rappelé à notre réalité, les incendies, les inondations et la fuite en avant n'arrête plus. Et ça fait une vingtaine d'années qu'on commence à parler de tous ces enjeux environnementaux, des limites à la fois autour du changement climatique, autour de la chute de la biodiversité, des limites aussi en termes de tirage sur un certain nombre de ressources, de matières premières limitées, en premier lieu les énergies fossiles, dont nous dépendons à 80% avec le pétrole, où on serait, d'après les dernières études, proche du pic de production de pétrole. Et puis, à chaque fois qu'on essaye de trouver des solutions techniques par rapport à ça, en fait, on déplace les problèmes vers d'autres choses. Donc, on va remplacer le pétrole par l'électricité qui ne pousse pas sur les arbres, que l'on ne trouve pas dans la terre. Donc, on va aller sur le tirage d'autres matières premières, d'autres ressources et ainsi de suite. Et à travers ce livre, on a essayé, dans un premier temps, de décrypter tous ces enjeux à la fois très scientifiques, très débattus dans la société, où il y a beaucoup, comme le dit le titre de la collection, il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup d'informations des fois qui sont difficiles à appréhender, il y a beaucoup aussi de manipulation. Il ne faut pas oublier que beaucoup de grosses entreprises ont financé pendant plusieurs années de fausses recherche afin de brouiller les messages. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une grande majorité des citoyennes et des citoyens de ce monde qui comprennent qu'on atteint les limites d'un système et qu'il est salvateur de s'arrêter sur ces grands ordres de grandeur pour mieux comprendre les solutions. Et quand je reprends ma casquette d'ingénieur, on m'a toujours appris que pour résoudre un problème, il faut d'abord analyser correctement ce problème.
Alors c'est le résultat, le monde dans lequel nous vivons, hein, c'est le résultat d'un modèle qui est né au milieu du 19e siècle avec la révolution industrielle et puis qui s'est amplifié et mondialisé après la Seconde Guerre mondiale. Nous ne sommes pas le fruit de rien.
Alors oui, avec la révolution industrielle, on a commencé à s'intéresser, à utiliser un don de la planète qui est en fait l'accumulation pendant des millions, des dizaines, des centaines de millions d'années d'énergie solaire à travers la biomasse accumulée, ce qui a donné d'abord le charbon, puis le pétrole, puis le gaz naturel, et dont on dépend aujourd'hui à 80% d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire que autour de vous, sauf si vous avez la chance de vivre dans une société encore peu développée économiquement, vous êtes totalement dépendant de cet or noir qui pose le problème du changement climatique, qui pose le problème d'une dépendance à une énergie qui est une ressource finie, mais surtout qui, quelque part, nous a rendus fous, parce que d'un seul coup, on a eu accès à une quantité d'énergie totalement démesurée, et en l'espace de quelques générations, une minorité sur cette planète a pu consommer une quantité monstrueuse d'énergie accumulée sur cette planète pendant des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions d'années. Et on arrive aujourd'hui à un carrefour civilisationnel, ce modèle civilisationnel qu'est la société thermo-industrielle, qui a surtout bénéficié au départ aux populations occidentales, minoritaires en nombre, mais extrêmement majoritaires en termes d'impact historique d'un point de vue environnemental, changement climatique, et puis chute de la biodiversité. Aussi, il y a une dette envers les pays du Sud dans le sens de l'exploitation, c'est-à-dire que les 30 Glorieuses en France ont été possibles, par exemple, parce qu'on allait tirer à la fois des ressources dans les pays du Sud, mais on allait aussi exploiter des populations et transformer culturellement, institutionnellement, un certain nombre de pays du Sud.
On va vous parler au passé, mais c'est toujours actuel.
C'est toujours le cas. On est dans un système post-colonialiste qu'on appelle gentiment le développement. Et la décroissance, en fait, nous invite à revenir sur cette histoire assez récente, mais qui a façonné les imaginaires. On est rentré dans une société de travail, dans une société consumériste, dans une société matérialiste, dans une société technoscientiste ou économiciste. Et à travers ce livre, on s'intéresse aux fondements à la fois techniques, économiques, physiques, énergétiques de tout ça, mais aussi les fondements philosophiques, culturels et politiques.
Alors, cette société de la croissance, elle a une boussole qui s'appelle le PIB, le produit intérieur brut. Une boussole complètement inadaptée, comme nous l'explique l'économiste Éloi Laurent, qui le démontre dans son livre « Sortir de la croissance, mode d'emploi », publié aux éditions Les Liens qui Libèrent.
Ça s'est passé historiquement en deux temps. Le premier temps, c'est la Grande Dépression aux États-Unis, les années 30. Les membres du Congrès américain veulent avoir un indicateur synthétique, systémique, qui leur donne une idée de ce qui est en train de se passer dans toute l'économie américaine. Parce qu'ils pressentent que c'est une crise qui est en train de se passer, qui est globale. Au cœur de la Grande Dépression, ils vont aller voir Simon Kuznets, qui est un économiste d'Harvard, et ils vont lui demander de construire ce qui va être la maquette du produit intérieur brut, le PIB préhistorique, si on veut, ils vont lui demander, en fait, de construire un indicateur donc synthétique global. C'est très intéressant parce que ça nous dit d'emblée que le PIB n'est pas un indicateur qui mesure le bien-être, c'est même pas un indicateur qui mesure le développement, c'est un indicateur qui mesure la crise. C'est un indicateur de dépression, c'est pas un indicateur de développement quand il est inventé. Donc là, on est en 1932-34. Ensuite, à la conférence de Bretton Woods en 1944, donc grosso modo 10 ans après, on a le passage de flambeau entre le Royaume-Uni et les États-Unis pour le leadership mondial. Et là, le PIB, les travaux autour du PIB se sont renforcés autour notamment de John Maynard Keynes, l'économiste britannique. Et les États-Unis vont imposer le PIB comme mesure du développement. Après Bretton Woods, après 1944, on est développé si on a un certain niveau de PIB par habitant. Et depuis lors, c'est-à-dire ça fait quasiment 80 ans, on est toujours dans ce paradigme de cette erreur fondamentale qui d'ailleurs avait été dénoncée par l'inventeur du PIB lui-même. Simon Kuznets avait mis en garde dès l'invention du PIB pour dire ça n'est pas un indicateur de bien-être. Et notamment, un des arguments fondamentaux, c'était que ça n'est pas un indicateur de bien-être parce qu'il ne mesure pas les inégalités. Le bien-être humain, une vie heureuse, dirait, aurait dit Aristote, c'est quoi ? C'est en fait pour tout le monde instinctivement la santé, l'éducation, le bonheur, le temps passé avec ses enfants, avec ses amis, donc le temps libre, et puis plus largement les institutions, les inégalités, la confiance, et puis plus largement encore les dimensions de la biosphère, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, etc. Quand vous faites le rapport entre tous ces horizons du bien-être et ce que mesure le PIB, ce que je montre à un moment dans un graphique dans le livre, c'est qu'en fait le PIB mesure une part minuscule de tout cela. Et évidemment au 21e siècle, quand on a sous les yeux la crise des inégalités, les crises écologiques et la crise démocratique, ça nous saute au visage. On est en fait prisonnier d'une boussole qui est une boussole du 20e siècle, voire même du 19e siècle, et on est au début du 21e siècle avec des crises qui sont absolument gigantesques sur les bras et on n'a pas d'indicateur fiable. Le problème, c'est que les gens pensent que la croissance est quelque chose d'abstrait, de philosophique, qu'on pourrait mettre en adéquation avec le progrès. Mais ce n'est pas ça la croissance. La croissance, c'est un indicateur particulier et ça engage les politiques publiques. C'est que c'est la croissance du PIB et le PIB, il est encastré dans nos politiques publiques. Donc quand on fait des politiques économiques aujourd'hui dans le monde entier, que ce soit en France, en Afrique, en Asie, on prend ça comme référence. Et si vous voulez faire augmenter le PIB, vous allez faire des politiques publiques qui vont faire augmenter augmenter le PIB, y compris au détriment de toutes les autres dimensions du bien-être. C'est-à-dire que vous allez détruire l'éducation pour faire augmenter le PIB. Vous allez détruire les écosystèmes pour faire augmenter le PIB, etc. etc. Donc c'est effectivement gravissime.
Vincent Liéger, comment réagissez-vous à ces propos d'Éloi Laurent ?
Je connais très bien Éloi Laurent et il n'y a pas de hasard que ça rejoint tout à fait ce que l'on dit dans l'histoire du PIB dans notre petit livre. J'ajouterais aussi, le PIB ne prend pas en compte de manière négative, puisque c'est un agrégat, on ne fait qu'additionner des choses qui peuvent être très positives pour notre bien-être ou totalement destructrices pour notre bien-être. Et surtout, il ne prend pas en compte la destruction de l'environnement, il ne prend pas en compte le tirage sur des ressources finies dans notre système. Donc le PIB, c'est cette absurdité qui fait que, par exemple, je me suis rendu dans votre très beau studio en vélo, je n'ai pas eu d'accident, tout s'est bien passé, j'ai pris beaucoup de plaisir malgré la petite pluie de ce début d'automne, je n'ai pas fait de PIB. Si j'étais venu en Uber et que j'avais eu un accident, j'aurais fait beaucoup de PIB. Et le PIB, c'est cette absurdité qui, quelque part, nous a rendus aveugles. Alors, les indicateurs sont toujours faux, mais certains indicateurs peuvent être utiles. Le PIB était utile dans son contexte lorsqu'il a été lancé. Malheureusement, nous sommes rentrés dans une forme de religion, dans une forme d'aveuglement autour de cet indicateur. Et il y a cette phrase que j'aime beaucoup, qui est très imagée, de Mark Twain, qui dit « Lorsqu'on a un marteau dans la tête, on voit tous les problèmes sous forme de clous. » Et aujourd'hui, quand on écoute que ce soit les antennes de RFI, de la plupart des grandes radios, des grandes télévisions, même des journaux comme le journal Le Monde ou The Guardian ou le New York Times, quand on écoute les hommes et femmes politiques mainstream, on est en permanence dans un jargon autour de la croissance pour la croissance, et jamais on ne pose la question de qu'est-ce qu'on y met derrière. Et un des enjeux de la décroissance est justement de s'attaquer à toutes ces croyances implicites, et puis de passer d'une vision purement quantitative à une vision beaucoup plus complexe, qualitative, sur le sens que l'on souhaite donner à nos vies.
Alors, il y a quelque chose que j'ai bien aimé dans votre livre, il y a beaucoup de choses, mais ça, j'ai trouvé ça assez parlant et assez drôle en même temps. Vous dites finalement, dans le vivant, il y a toujours une limite. Et nous, en tant qu'humains, quand on a à peu près 5% de croissance par an. Et si ça ne s'arrête pas, à 70 ans, à 100 ans, on devrait mesurer 70 mètres. Or, au bout d'un moment, ça stagne.
Ouais, et d'autant plus que la croissance, c'est quelque chose qu'on a un peu découvert au moment de la pandémie de Covid-19. C'est ce qu'on appelle la fonction exponentielle. Et au départ, les politiques, quand ils ont été alertés sur cette pandémie, ils avaient du mal à comprendre de quoi on parle. On parle d'une pandémie alors qu'il y a quelques cas ici ou là, etc. Et en fait, une fonction exponentielle, on commence avec quelques cas, mais très vite, ça devient très problématique. Et quand ça devient problématique et qu'on essaye de réagir, ça devient incontrôlable. Et le PIB est complètement dans cette logique-là, puisqu'on calcule d'une année sur l'autre le taux de croissance, ce qui fait que pour un taux de croissance de 2%, par exemple, pour notre économie, il faudrait multiplier par 5 notre économie d'ici la fin du siècle. Ce qui voudrait dire 5 fois plus de studios comme ici, 5 fois plus de vélos, 5 fois plus de services, 5 fois plus, en fait, de choses que l'on calcule, mais aussi de ce que l'on ne calcule pas, donc 5 fois plus de stress au travail, 5 fois plus d'étalement urbain, 5 fois plus de destruction de la biodiversité, 5 fois plus de tirage sur des ressources limitées, etc. Et quelque part, on est pris dans ce piège où on va toujours plus vite droit dans le mur, alors qu'il faudrait réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas des limites à la croissance, qui était le titre du rapport du Club de Rome dès 1972, et là où il faut peut-être à certains moments répondre à des besoins fondamentaux, peut-être en faisant de la croissance sans que ce soit une fin en soi. La fin, c'est de répondre à des besoins fondamentaux. Il faut aussi savoir s'arrêter quand on dépasse des seuils de contre-productivité, pour citer Ivan Illich, c'est-à-dire quand on dépasse des seuils où continuer à faire de la croissance n'est plus possible pour des raisons physiques et environnementales évidentes, mais surtout devient toxique pour le vivre ensemble et notre bien-être.
Alors, c'est ce qui s'appelle le paradoxe d'Esterlin. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
Alors, le paradoxe d'Esterlin, c'est cette logique que la croissance continue à augmenter, mais que le niveau de bien-être, une fois qu'on a passé un certain niveau, ne continue, lui, plus augmenter. Soit il commence à stagner, soit il commence à baisser. Et c'est quelque chose que l'on a observé dans l'ensemble des sociétés qui sont passées par ce passage de l'économie de croissance. Donc dans un premier temps, quand la croissance permettait à toutes et tous d'avoir accès à l'éducation, d'avoir accès à l'eau, d'avoir accès à l'alimentation, d'avoir accès à des loisirs, etc.
Qui est un stade qui fait rêver encore beaucoup de pays, hein.
Tout à fait. Et d'ailleurs, on peut le faire sans nécessairement passer par notre modèle économique et la croissance. C'est même plutôt souhaitable parce qu'après, on crée d'autres dépendances où on a pu le faire dans les sociétés occidentales parce qu'on avait une assistance technique et humaine d'autres pays du monde. Donc, je pense qu'il faut trouver d'autres chemins au pluriel vers la réponse aux besoins fondamentaux. Et la décroissance au nord y contribue parce qu'elle permet aux pays du sud de se libérer, de se réapproprier leur autodétermination de la part des pays du nord. C'est-à-dire que tant qu'on aura besoin du cobalt au Congo, tant qu'on aura besoin du lithium ou du cuivre au Chili, on sera obligé d'aller exploiter ces régions-là et quelque part d'ingérer culturellement et politiquement dans ces régions-là. Mais pour revenir à Esterlin, où cette logique de découplage entre la croissance qui continue à augmenter et le niveau de bien-être dans la société, ou encore plus le niveau de bien-être subjectif dans la société, il n'est pas intimement lié. Et on a vu par exemple aux États-Unis ou en France où la croissance continue à augmenter et pourtant on est dans des sociétés toujours plus frustrées, toujours plus violentes, avec une explosion des inégalités, avec toujours du chômage, avec aussi des questions sur le vivre ensemble, avec des questions sur le stress, le mal-être au travail, et puis aussi tous les méfaits de la croissance qui souvent arrivent après, comme les pollutions chimiques et les maladies que ça entraîne, ou la pandémie de Covid-19, qui est en fait une syndémie qui est liée à la société de croissance. C'est une zoonose, c'est parce qu'on va jouer avec les écosystèmes, parce qu'on va se rapprocher de faunes qu'on ne devrait pas aller se rapprocher, voire on joue scientifiquement aux apprentis sorciers avec des virus. L'enquête, si un jour elle aboutit, nous dira exactement l'origine de cette maladie, mais c'est le cas pour la grande majorité des maladies qui apparaissent aujourd'hui, qui sont des zoonoses, et qui en plus s'accélèrent à travers nos modes de vie avec un bougisme, un accélérationnisme, on bouge dans tous les sens, mais aussi avec des maladies qui sont des maladies de riches liées à la croissance, c'est-à-dire l'obésité, le surpoids, les maladies cardiovasculaires, qui font que cette pandémie est d'autant plus grave.
Alors face à ce constat, la solution évidente, vous l'avez dit, c'est la décroissance, mais cela veut dire quoi et comment s'y prendre? Place tout d'abord à la chanteuse sud-africaine Leta Mbulu.
Shia kema khupe cha buberi kema cha 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 mana buberi buna hai cha khotshaba e gari masru ta kamshi
La sud-africaine Leta Mbulu, Pulma Yetla dans C'est pas du vent sur RFI.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Moi, ce qui m'intéressait plus, c'était d'être plus au contact de la nature, d'être plus au contact de la matière, de construire. J'ai aussi beaucoup été en Afrique. Donc j'avais une vision du niveau de vie en fait qui est complètement délirant, le niveau de vie français, toujours consommer plus, posséder plus.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Nous parlons de la décroissance économique qui s'impose aujourd'hui avec Vincent Liéget, ingénieur, chercheur interdisciplinaire, qui vient de publier « Décroissance » dans la collection « Fake or Not » chez Tana Édition. Alors, qu'est-ce que la décroissance? On en parle depuis le début de cette émission, on va être pédagogue, nous aussi on va faire l'épreuve de la définition. Alors, je vous propose tout d'abord celle du politologue Paul Ariès.
Je crois que la crise environnementale, comme la crise sociale, ça peut être une chance. ça peut être une chance de redevenir départageux. Et je dirais que si nous savons effectivement dire que le grand enjeu pour les prochaines décennies, c'est pas de faire croître le gâteau, c'est-à-dire le PIB mondial, mais de changer sa recette, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on produit comment, pour satisfaire d'abord les besoins sociaux fondamentaux de l'humanité, eh bien on peut reprendre l'espoir. La décroissance, c'est d'abord un mot au but qui sert tout simplement à décoloniser notre imaginaire. Tant que nous aurons la tête formatée par l'économie, on ira toujours chercher la solution à l'ensemble des problèmes sociaux dans le toujours plus de production ou toujours plus de consommation. La décroissance, c'est finalement une façon d'être des empêcheurs de développer et de croître en rond. Je dirais que la décroissance, c'est pas un programme, mais ça en défait beaucoup. C'est par exemple le fait de prôner la relocalisation contre le mondialisme, de prôner le ralentissement contre le culte de la vitesse, de prôner la coopération contre le culte de la compétition. C'est le fait aussi peut-être de prôner la gratuité contre une société de la marchandisation.
Alors, votre réaction, Vincent Liégé, à cette définition ?
Ça fait plaisir d'entendre mon ami Paul Ariès, qui est toujours aussi brillant pour expliquer toutes ces histoires-là.
Et alors, je précise juste que Paul Ariès, nous l'avons reçu, nous avons ressorti cette définition il y a 10 ans. Donc, ça veut dire que ça fait longtemps qu'on parle de décroissance.
Ça fait longtemps, et Paul Ariès écrivait la préface d'un livre précédent qu'on a publié il y a 8 ans. Et je dirais qu'on parle de décroissance, et Paul Ariès était au début de cette aventure, dans le sens qu'on lui donne aujourd'hui, depuis le début des années 2000. Et au début des années 2000, deux collectifs se sont rencontrés, un collectif de casseurs de pubs qui était basé à Lyon, là où habite aussi Paul Ariès, qui eux se posaient la question de l'agression publicitaire, qui est un outil de manipulation de nos cerveaux, extrêmement subtil et efficace, puisque la publicité utilise des outils en comprenant bien comment fonctionne le cerveau humain, comment fonctionne la psychologie sociale, la sociologie, et nous manipule en jouant avec les peurs, en jouant avec les pulsions, en jouant avec les frustrations, pour nous faire désirer des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Et plus on va consommer, plus on va être frustré par la publicité, et plus on va vouloir consommer plus. Et on crée une société de surabondance, de gâchis frustrés. Et en parallèle, ils ont rencontré, et c'est extrêmement intéressant, des gens qui critiquaient le développement comme outil post-colonialiste, mais aussi outil de colonisation des imaginaires dans les pays du Sud. À l'époque, était proche de ce réseau une ancienne ministre de la Culture du Mali, Aminata Traoré, que j'adore, et qui avait écrit un livre qui s'appelait « Le viol de l'imaginaire », pour parler de la colonisation, mais pas uniquement de la colonisation. Ce qui a été terrible dans le pillage et l'exploitation des personnes a été aussi comment on a violé les imaginaires, comment, quelque part, on a essayé d'imposer une vision unique du monde. C'est pour ça que dans la décroissance, on ne parle plus d'internationalisme et de pluriversalisme, de souligner ce que nous avons en commun, le vivre ensemble, le partage, la solidarité, mais aussi de souligner nos diversités. On a besoin de biodiversité culturelle dans nos solidarités. Et donc, la décroissance, elle naît de cette double rencontre, pas loin d'ici, à Paris, en 2002, lors d'un gros colloque à l'UNESCO qui s'appelait « Défaire le développement, refaire le monde ». Et à travers ce terme, et on avait besoin, et nos amis publicitaires ont eu le nez fin, on avait besoin d'un terme qui à la fois s'attaquait à la religion centrale, et 20 ans après, on voit à quel point la croissance reste extrêmement dominante dans les imaginaires, au moins d'une minorité, on pourra y revenir, parce qu'aujourd'hui, une majorité des gens se retrouvent plutôt dans la décroissance dans les sociétés occidentales, en particulier en France, mais une minorité reste très attachée de manière, dans une forme de croyance à la croissance, donc il fallait quelque part s'attaquer à cette croyance pour ouvrir le débat et aller voir derrière ce qu'il y a. Mais surtout, il nous fallait un outil, un slogan non récupérable par le système dominant. Et depuis une vingtaine d'années, on a pu voir beaucoup de slogans, de concepts, d'idées, de mots portés par des personnes des fois qui pouvaient ne pas être totalement sincères, mais la majorité des cas, ces personnes étaient sincères, être systématiquement récupérées par le système dominant, ce qui fait qu'aujourd'hui, plus personne n'ose encore se revendiquer du développement durable, qui était à la mode au moment où la décroissance naît. Et puis, quand on va dans un supermarché, on retrouve des slogans que nous, on a soutenus et qu'on continue à soutenir et qu'on aime bien, mais qui ont été dévoyés, qui ont été récupérés par le système dominant, comme le bio, comme le fair trade, comme la convivialité, comme l'économie responsable, comme la solidarité, comme la convivialité, où on nous vend les mêmes produits qu'il y a 20 ans, qui continuent à exploiter, qui continuent à détruire les environnements, mais qui malheureusement n'ont pas changé leur processus de fabrication. Donc le terme décroissance est une invitation à décoloniser notre imaginaire est une invitation à débattre, est une invitation à sortir de beaucoup de croyances implicites que l'on ne questionne plus pour s'émanciper de la croissance et commencer à penser de manière libre et autonome à de nouvelles manières de vivre ensemble en se réappropriant la joie de vivre.
Alors la décroissance, c'est un concept que l'on voit de plus en plus dans les médias, hein, porté même par des personnalités politiques. Hein, je pense à Delphine Bateau, là, qui porte ce sujet lors des primaires écologistes qui ont lieu cette semaine en France. Alors, vous parliez du viol de l'imaginaire par Aminata Traoré, mais dans cet imaginaire, par exemple, il y a l'idée très ancrée, hein, dans la tête de tout le monde, du ruissellement de la richesse, c'est-à-dire que l'activité économique produite par les plus riches bénéficie à tous, par exemple en créant de l'emploi. Alors, est-ce que ce ne sont pas les plus pauvres qui seraient les premières victimes de la décroissance?
Alors, c'est l'une des grosses fake news ou impostures que l'on démonte dans notre livre. Et c'est un mensonge d'autant plus éhonté, c'est que le mythe du ruissellement et le mythe de la croissance comme passage obligé à permettre à toutes et tous de subvenir à ses propres besoins reste très ancré dans les discours politiques dominants et dans les politiques dominantes. D'où l'attachement aussi à cette autre imposture qu'est la croissance verte. Et quand on regarde dans le détail l'histoire du capitalisme, en fait, c'est plutôt le contraire. Le ruissellement a toujours été du bas vers le haut, du bas dans nos sociétés occidentales à travers les gens qui ont d'abord été expulsés de leurs terres. C'est ce que Karl Polanyi dans La Grande Transformation rappelle avec l'histoire du capitalisme, où on a expulsé les gens des communs pour les forcer à travailler dans les usines. Ils n'y allaient pas en chantant, ils y allaient plutôt en allant saboter les machines parce qu'ils se retrouvaient de manière hétéronome, de manière aliénée, à devoir accepter du travail contre des faibles rémunérations là où ils perdaient leur autonomie. Et puis le ruissellement, il a surtout eu lieu dans l'autre sens, à travers le pillage des ressources naturelles des pays du Sud vers les pays du Nord. Et encore aujourd'hui, on est dans ce mythe et on a pu voir comment en période de pandémie, les plus riches sont totalement enrichis et très souvent sur la base d'argent public déversé sans contrepartie vers les multinationales qui ont été utilisées pour financer des actions, pour subvenir aux besoins d'une oligarchie qui est déjà dans une position de surenrichissement. Et en fait, c'est ce que rappelle Thomas Piketty dans un de ses derniers livres, je suis pas sûr que ce soit le dernier. On n'a jamais atteint de tel niveau d'inégalité au nom du ruissellement, au nom de la croissance depuis toujours. Et l'enjeu, le premier enjeu, s'il y en a un, de la décroissance va être de se rappeler que être adulte dans une société limitée sur une planète finie qui s'appelle la Terre, c'est pas d'aller vers la croissance pour espérer d'avoir toujours un peu plus pour redonner aux plus pauvres, aux plus exploités, mais c'est au contraire de commencer par partager. Et un des enjeux de la décroissance, c'est le partage.
Alors justement, ça passe concrètement par la limitation des salaires, ce qui n'est pas une idée nouvelle, hein. Roosevelt en parlait déjà.
Alors, il n'a pas fait qu'en parler. Donc Roosevelt, président des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, a mis en place ce que nous, on prône, une forme de revenu maximum acceptable. Et les États-Unis ont l'air quand même de s'être développés ou d'avoir fonctionné plutôt pas mal, puisque ça a été mis en place de la Seconde Guerre mondiale jusque dans les années 70, où l'enrichissement individuel était limité. Au-delà d'un certain niveau, il y avait des taxations qui étaient énormes, quasiment de 100%. Et nous, on rouvre ce débat du revenu maximum acceptable, où on pense que pour vivre dans une société qui soit équilibrée, à la fois pour des raisons de vivre ensemble, des raisons d'équité, des raisons de justice sociale et environnementale, mais surtout pour des raisons d'imaginaire, le mode de vie des plus riches étant utilisé en permanence par les médias dominants dans les mains des oligarques et par la publicité dans les mains des multinationales pour nous faire désirer ce mode de vie des plus riches et créer des frustrations. Donc il est souhaitable de se réapproprier des limites, voire de s'auto-instituer des limites et de mettre en place un revenu maximum acceptable. C'est d'autant plus intéressant que d'une part, il y a de plus en plus d'entreprises qui se créent aujourd'hui et qui, dans leur statut, décident par elles-mêmes de le mettre en place dans une logique d'avoir...
L'ONG Oxfam, par exemple, c'est limité de 1 à 3 entre le plus bas et le plus haut salaire.
Et ce qui permet d'avoir des formes de gouvernance beaucoup plus justes et des responsabilités partagées, puisqu'on a les mêmes salaires, on a les mêmes engagements, on est dans des formes d'organisation beaucoup plus horizontale, pas totalement horizontale, parce qu'il y a un besoin d'avoir des libertés différentes, parce que tout le monde n'aspire pas aux mêmes engagements par rapport au travail, par rapport aux activités, et ainsi de suite. Donc, revenu maximum acceptable, mais il y a la nécessité aussi, puisque comme Piketty le rappelle, les inégalités aujourd'hui sont surtout le fruit des patrimoines, la nécessité de poser la question de l'héritage, qui est une question extrêmement sensible, parce qu'il y a à la fois une question question rationnelle. Est-ce que ma famille s'est enrichie de manière juste ou de manière frauduleuse ou en exploitant ou en ayant une dette écologique? Mais il y a aussi une dimension émotionnelle. Donc, il y a toute une réflexion à porter sur comment porter politiquement de manière non violente ces questions-là. Et de la même manière, sur le droit de propriété, comment sortir d'un droit de propriété qui aujourd'hui va à l'encontre du vivre ensemble, va à l'encontre de la justice sociale et environnementale pour aller vers des formes de gouvernance autour des communs.
Voilà, alors cette notion des communs, hein, c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler. Qu'est-ce qu'on appelle les communs, en fait? C'est quoi? C'est l'air, l'eau, les forêts?
Alors, c'est à la fois ce que vous citez, ça peut aller aussi jusqu'à la propriété intellectuelle. Donc, on parle par exemple de l'eau de open source. C'est ce qu'on fait beaucoup dans les low-tech ou dans la permaculture. Donc, on partage
le savoir,
les savoir-faire,
sans le
les connaissances, qui a toujours été historiquement le cas. Il y a eu à un certain moment une appropriation des savoirs, des savoir-faire, des connaissances, des outils. Et la notion de commun, ce n'est ni la propriété privée, ni la propriété publique, mais c'est à inventer d'autres formes de gouvernance autour de délibération citoyenne, autour de formes de démocratie directe. Et je dirais, quand on regarde l'histoire, il n'y a rien de nouveau. Il y a toujours eu dans toute société, dans toute civilisation autre que la nôtre, et c'est ce qu'explique bien Karl Polanyi qui nous invite à réencastrer l'économie. Dans l'histoire des civilisations, il y a toujours eu des équilibres sociaux où l'économie, le marché, les propriétés jouaient un rôle, mais surtout quand elles devenaient trop présentes et qu'elles allaient à l'encontre du vivre ensemble ou à l'encontre de l'environnement, à l'encontre de la justice sociale et environnementale, on se réappropriait politiquement d'autres formes d'organisation, d'autres formes de gestion autour de ces communs. Et je crois qu'il y a aujourd'hui une urgence dans les territoires de se réapproprier ces gouvernances. Il y a différents mouvements qui émergent. Je pense au mouvement municipaliste. On a vu en France qu'on a appelé la vague verte, mais qui était au départ une vague de listes citoyennes. Il y a des expérimentations comme par exemple à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où on a expérimenté d'autres manières d'approcher les espaces, d'autres manières de partager, de produire, d'échanger. Mais il y a surtout aujourd'hui plus de 5000 langues parlées dans le monde, moins d'une centaine vivent dans l'imaginaire qui est le nôtre, et autour de ces 5000 langues, je crois qu'il y a tout un voyage, comme Karl Polanyi l'avait fait dans l'histoire des civilisations, il y a tout un voyage à faire pour apprendre d'autres formes de sagesse, d'autres rapports à la nature, d'autres rapports aux exploitations et donc d'autres rapports au commun.
Alors comment justement s'approprier cette décroissance au niveau individuel, décroissance mode d'emploi, c'est aussi dans votre livre. On en parle dans un instant, juste après Stevie Wonder.
My last time on earth, I lived a home full of sin.
Stevie Wonder, Highest Ground dans C'est pas du vent sur RFI.
R. F. I. Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Il faut redéfinir le grotesque en fait. On ne se rend plus compte que les milliers de petites actions qu'on fait tous les jours sont grotesques pour la plupart. Aussi grotesque qu'à l'époque où tout le monde fumait, par exemple. Quand la clope est arrivée, le médecin fumait dans la pièce du mec qui allait mourir d'un cancer du poumon, en lui expliquant bah, c'est pas de bol. Hein. Et on s'est rendu compte que c'était grotesque, et maintenant tout le monde le sait. Avec le recul, on se dit que c'était aberrant. Et ben en fait, il y a plein de petites conneries comme ça dans notre quotidien qui sont du même niveau que cette histoire de clope. Et c'est la bonne idée d'arrêter de les faire. C'est ça la vraie idée.
C'est pas du vent sur RFI.
Alors nous parlons de la décroissance économique aujourd'hui avec vous, puisque vous venez de publier Décroissance dans la collection Fake or Not chez Tana Édition. Alors choisir la décroissance, ça passe par une prise de conscience de l'organisation de la société dans laquelle nous vivons. La réalisatrice Muriel Barra est allée rencontrer des hommes et des femmes qui ont choisi de s'affranchir des services que propose la société pour vivre leur vie de manière autonome. Sa formidable série documentaire s'appelle Un autre chemin. Patrick et Brigitte Baronnet vivent près de Châteaubriant, dans l'ouest de la France. Ils ont fait ce choix depuis longtemps.
On ne paye plus un centime d'eau depuis 40 ans et plus un centime d'électricité depuis 20 ans. Voilà. Il y a aussi notre mode d'alimentation. Ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout la santé. Et donc, on mange très peu de viande, très occasionnellement. On est autonome à 80% en légumes. Après, on achète quand même l'huile, on achète par exemple les raisins secs,
les céréales.
Puis de temps en temps, on se fait un extra. Et puis, comme je ne suis pas vigneron et que j'aime bien le vin, on achète du vin. Progressivement, en s'affranchissant des besoins factices que notre société nous impose, il y a une évidence qui est apparue, c'est qu'on est des êtres humains sur une planète qui nous donne tout et qui nous donne l'abondance. L'eau, la terre, l'air, le vent, le feu, le soleil, etc. Et on s'est aperçu qu'on a marchandisé les éléments de la nature. Et donc nous, on a décidé de ne pas passer par le système marchand qu'on est passé pour non pas exploiter, mais profiter de ce que la nature nous donne et éviter au maximum des produits artificiels. On revient à une vie très simple finalement, et pourquoi ça ne se généraliserait pas? Je ne comprends pas.
Bah oui, c'est tout simple finalement. Pourquoi ça ne se généraliserait pas, dit Patrick Baronnet. Patrick et Brigitte Baronnet qui ont inspiré des milliers de personnes quand même.
Exactement. Alors c'est très simple, oui et non. C'est-à-dire que la démarche individuelle dans nos sociétés occidentales, alors c'est peut-être plus simple dans des sociétés moins développées. C'est pour ça aussi que je me suis installé en Hongrie, où c'était beaucoup plus aisé de créer une coopérative autour des questions de la décroissance, qu'il y avait encore plein de savoir-faire, plein de solidarité informelle, plein de partage informel, etc., qui sont déconstruits, détruits dans les sociétés occidentales. Et en fait, c'est très simple de faire des petits chemins. Alors, on peut commencer individuellement dans nos sociétés occidentales par repenser notre rapport à la nourriture, en ayant une alimentation beaucoup moins carnée, mais plus de saison, locale, bio. On peut réfléchir à notre rapport au transport, ce que j'ai fait aujourd'hui, venir en vélo plutôt qu'en voiture ou les transports en commun. On peut penser à un autre rapport aux écrans. Moi, j'ai encore beaucoup de mal avec ça, se désintoxiquer de notre addiction à nos téléphones portables, à l'Internet. Et puis, peut-être repenser notre rapport au travail. Ce que moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire, de quitter mon emploi contraint qui me permettait de vivre et de m'auto-instituer des minimums pour faire des choses, des activités qui ont du sens, etc. Malheureusement, nous sommes pris dans une société qui crée énormément d'aliénation. Et nous sommes pas toutes et tous égaux quant à notre capacité de faire des pas de côté et de se réapproprier nos activités, nos consommations, nos temps, etc. Et c'est pour ça que la décroissance, si elle parle d'abondance frugale, puisqu'il n'y a d'abondance que frugale, qui sait s'auto-limiter, si elle parle de simplicité volontaire ou de sobriété heureuse, la décroissance fait le lien aussi avec à la fois des résistances pour résister face à la fuite en avant de la société de croissance et aussi des projets politiques pour accompagner toutes et tous vers cette forme d'autonomisation et de rompre avec les inégalités et de créer des formes de partage, repenser notre système économique qui nous aliène.
Mais alors, est-ce que se poser ces questions, ce n'est pas un luxe de riche ?
Bah, je dirais que non. Je dirais que c'est une urgence pour les plus riches de décroître pour permettre aux plus pauvres de se réapproprier des espaces d'autodétermination et d'arrêter d'être exploités. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de statistiques qui montrent qu'être extrêmement riche ne rend pas nécessairement heureux, voire même rend malheureux. Les super riches sont des gens plutôt parano et très seuls dans leur vie. Et un de nos slogans, c'est « moins de biens, plus de liens ». Et quelque part, pour permettre aux plus exploités de cette planète de se réapproprier moins d'exploitation et leur autodétermination, c'est permettre aux plus riches d'avoir plus de liens et moins de biens et donc plus de joie de vivre. Donc c'est quelque chose où nous sommes toutes et tous intimement liés. Et de la même manière, je crois que les plus pauvres d'autres civilisations auront beaucoup de choses à apprendre. Quand on parle du low-tech et qu'on se promène un peu dans les pays d'Afrique, je pense que les Africains auront énormément de choses à apprendre aux Occidentaux qui, eux, sont devenus totalement incompétents et ne savent plus produire la moindre chose dont ils ont besoin. Donc c'est quelque chose qui en fait questionne les inégalités et recrée du lien entre les plus riches et les plus pauvres en rompant avec les logiques d'exploitation.
Alors moi, évidemment, je trouve que tout ce que vous dites a du sens. Après, la question, c'est que nous sommes dans une économie totalement mondialisée aujourd'hui. Le mot décroissance, on l'entend par petites touches, mais ça reste extrêmement minoritaire. Et si, par exemple, la France décroît toute seule, comme vous l'écrivez dans votre livre, elle va se faire avaler par le reste du monde. Donc comment est-ce que l'on fait pour insuffler réellement une dynamique au niveau international ?
Alors, deux bonnes nouvelles. La première, c'est qu'on voit émerger... En France et en particulier dans les pays occidentaux, un intérêt grandissant pour toutes ces questions-là. Alors, je vais citer une étude publiée en septembre 2020 par nos amis du MEDEF, le grand patronat français, qui se désole que 67% des Françaises et des Français ont plus confiance ou se tourneraient plus, trouveraient plus pertinent de se tourner vers la décroissance que l'innovation technologique et la croissance verte à laquelle ils ne croient plus beaucoup. Et en plus, à laquelle ils ne souhaitent plus aller beaucoup parce que ça les rend malheureux. Donc c'est une première bonne nouvelle, c'est qu'il y a des dynamiques culturelles, sociétales vers la décroissance.
À l'échelle de la France, mais je pense que si on faisait une étude à l'échelle mondiale,
on retrouverait exactement la même chose. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on voit émerger des mouvements qui n'ont pas nécessairement prendre le mot décroissance dans l'ensemble des sociétés de ce monde. Alors c'est vrai que c'est plus compliqué d'aller parler de décroissance chez nos amis indiens parce que l'enjeu n'est pas de décroître comme chez nous où on a une empreinte écologique de 4 planètes. L'enjeu est de répondre aux besoins fondamentaux d'une grande partie des populations. Mais nos amis indiens, dans des mouvements post-gandhistes par exemple, dans des mouvements critiques du développement parce qu'ils se rendent compte que le développement économique apporte la misère là où il y avait la pauvreté, c'est-à-dire que on rend les gens toujours plus dans des conditions matérielles difficiles tout en détruisant les solidarités informelles, des mouvements en plus merveilleux portés par des femmes, par des femmes paysannes, écoféministes. On retrouve ça dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Je pense au mouvement anti-extractiviste porté par des populations indigènes des Andes, par exemple, qui sont aujourd'hui assises sur les mines de lithium et de cuivre dont rêve la croissance verte pour faire toujours plus de batteries de voitures électriques. Et on a des liens avec ces personnes-là. Et en Amérique latine, ils nous amènent avec la philosophie ou la spiritualité de la Pachamama, toute une réflexion qu'on a perdue dans nos sociétés rationnelles occidentales du rapport à l'autre, du rapport à la nature, de rompre avec l'exploitation, mais de se reconnecter. Et puis un dernier que je trouve extrêmement amusant et intéressant, en Chine, où il se passe des choses tout à fait inquiétantes avec toute cette dictature toujours plus technique de contrôle des populations avec les hautes technologies. Mais il y a énormément de tensions au sein de la Chine aussi sur... ils ont fait une erreur en suivant la folie occidentale autour de l'industrialisme, de la croissance, du développement. Ils ont toujours pris les Occidentaux, ils ont raison, un peu comme des chiens fous. Donc il y a ces tensions-là de revenir à leurs fondamentaux ruraux, agricoles et ainsi de suite. Et aussi, il y a tout un mouvement de jeunes qui s'allongent dans les espaces publics pour rompre avec le travaillisme et productivisme de leurs parents et de dire ils ne veulent pas suivre le même chemin productiviste, travailliste et surtout consumériste. Ils veulent avoir une vie qui a du sens et ne pas travailler 12 heures par jour pour produire des choses dont nous n'avons pas vraiment besoin. Donc je dirais que ces tensions, et je pourrais citer des dizaines d'autres exemples, ces tensions, ces discussions, ces réflexions sont extrêmement prégnantes, extrêmement fortes partout avec le monde. Et c'est pour ça qu'il y a une forme de réseau international de la décroissance qui fait le lien entre plein de mouvements partout à travers le monde qui s'enrichissent les uns avec les autres et qui se réunissent tous les deux ans autour de grandes conférences internationales. Parce que je crois qu'on a besoin plus que jamais de solidarité, de dialogue et d'échanger sur les bonnes pratiques et les bonnes questions autour de tous ces enjeux.
C'est quand la prochaine conférence ?
Alors, on est en période de pandémie et on a dans les tuyaux plusieurs projets qui sont pour l'instant suspens, mais il y en a un qui est déjà acquis au Parlement européen l'année prochaine. Et il n'y a rien de plus intéressant que d'aller parler de décroissance que dans l'une des antres de la croissance.
Alors, vous terminez votre livre par « Décroissance, mode d'emploi ». Alors, allons-y, hein, après le cours théorique, passons à la pratique. Je suis auditeur, vous m'avez convaincu. En une minute, deux minutes, allez, je commence par quoi ?
Alors, je dirais que c'est un peu comme une pelote de laine. Chacun trouve le fil qui lui convient le mieux et commence à le tirer pour aller vers les autres fils. Et ça peut être donc autour de la simplicité volontaire. On se sépare, on se débarrasse de sa voiture pour faire du vélo. Ça peut être autour du travail. Je passe à un temps partiel et je me réapproprie du temps pour m'occuper de mes enfants, lire des livres, voyager en vélo ou participer à des initiatives citoyennes locales. Ça peut être à travers le collectif, aller dans une AMAP, aller dans un repair café, aller faire du low-tech, aller réparer des vélos, ou ça peut être à travers des mouvements plus politiques, participer à des dynamiques citoyennes, voter aux primaires écologistes ou rejoindre la primaire populaire, par exemple, c'est-à-dire de repenser notre rapport à la démocratie de manière plus participative. Je dirais qu'il y a autant d'objectrices et d'objecteurs de croissance, c'est-à-dire de décroissantes ou de décroissants, que de chemins vers la décroissance, et il faut cultiver toute cette biodiversité de dynamiques et d'initiatives.
En tout cas, quand on vous écoute parler, vous avez le sourire, vous y croyez, quoi, vous êtes enthousiaste, vous pensez qu'on va vers ce chemin-là, quoi qu'il arrive, c'est inéluctable.
Alors, je suis comme tout le monde, taraudé par deux sentiments. Quand je reprends ma casquette d'ingénieur avec une analyse plus rationnelle de ce qu'il se passe dans notre société, j'ai tendance à être plutôt pessimiste. Les alertes en termes de changement climatique, de chute de la biodiversité, de raréfaction d'un certain nombre de matières premières, de pollution chimique, etc., etc., me laissent penser que l'on est face à des catastrophes qui sont déjà présentes, que l'effondrement a déjà commencé et qu'il va s'accélérer. Quand je regarde les forces en présence d'un point de vue économique, puisqu'on reste dans les sociétés dominées par l'économie, et donc d'un point de vue symbolique et médiatique, puisque c'est les oligarchies qui possèdent les médias, la publicité et aussi les narrations sur les grands partis politiques, j'ai tendance à avoir très peur et ça entraîne une fuite en avant autoritaire, répressive, voire guerrière. Et d'un autre côté, j'ai tendance à être très optimiste quand je suis au quotidien dans ma coopérative à Budapest, les mains dans le cambouis, les mains dans la terre, dans les écoles, à dialoguer. Quand je regarde les enquêtes d'opinion qui montrent qu'il y a des majorités qui se créent partout dans notre société vers ces chemins-là et qu'il ne faudrait pas grand-chose pour très vite se libérer de la société de croissance et de commencer à revivre avec dignité dans une logique de justice sociale et environnementale.
Merci beaucoup Vincent Liéget d'être passé dans ces pas du vent. Je rappelle le titre de votre livre, Décroissance, c'est publié dans la formidable collection Fake or Not chez Tana Édition. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. Continuez à nous écrire, nous adorons vous lire par mail c'estpasduvent@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Même planète, même heure.